Zone Marine, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons. Vous allez entrevoir tout un univers, du littoral à la haute mer en passant par le monde sous-marin. Écoutez, vous entendez déjà le bruit de la mer et l'odeur d'iode commence à vous chatouiller les narines. Alors, embarquez avec nous.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Ok. À la place arrière de... Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Ouais, c'est clair.
Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je suis aujourd'hui officier de marine marchande, mais je suis encore élève. Donc voilà, j'ai grandi aux Antilles, j'habitais en Martinique quand j'étais jeune. Je suis rentrée en France pour les études, on va dire pour le lycée. J'ai découvert tout le maritime, la plongée grâce à mon papa qui me faisait plonger quand j'étais petite. Et à partir de là, en France, j'ai fait des études que j'ai terminées après un master. Et puis, j'ai eu envie de partir et m'évader un petit peu. Je suis devenue monitrice de plongée, donc à l'étranger. J'ai fait un parcours PADI qui me permettait de voyager et de plonger en même temps en gagnant 3 sous. Hein. Je suis partie en Thaïlande en premier. J'ai passé mes diplômes là-bas. Puis ensuite, j'ai pu continuer à voyager. Donc, je suis partie en Amérique centrale. J'ai fait de la Colombie... tous les pays jusqu'en Californie. Et je me suis arrêtée pour travailler au Panama quelques mois, ainsi qu'au Honduras, sur une petite île qui s'appelait Roatan. Très sympathique, magnifique, des fonds marins incroyables, avec une visibilité folle. Et tous ces voyages, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Je suis rentrée un petit peu en France, puis après je suis partie en Indonésie, où j'ai habité pendant un an, à Nusa Penida, petite île à côté de Bali.
À propos de la plongée, donc tu encadrais de la plongée sportive des groupes de... D'accord.
Oui, j'encadrais des groupes, j'étais monitrice, donc déjà j'encadrais des groupes, mais aussi je donnais des cours, je faisais passer les niveaux aux gens,
aux touristes. L'école de plongée,
exactement. Exactement, c'est ça, du niveau 1 au niveau 4, en gros...
Les profondeurs en fonction du niveau, le niveau 4 c'est 69.
Alors en français oui, sinon c'est 40 pour PADI. Ouais, 40 pour les instructeurs et on va jusqu'à 30 en général pour les plongées profondes. C'est vraiment de la plongée récréative où on évite d'avoir des paliers, il n'y a pas de décompression, il n'y a qu'un dernier stop à 5 mètres de sécurité quoi. On plonge à l'air, ouais, exactement. Sinon aussi Nitrox, un mélange qui est un peu différent. Qui permet de tenir un peu plus longtemps, on va dire, mais à des profondeurs qui sont moindres. Et voilà, et encadrer des groupes jusqu'à 6 personnes. Beaucoup de baptêmes. Sinon, quelques groupes pour faire passer les niveaux.
Des belles plongées d'épaves ?
Plongées d'épaves, oui. Mais surtout au Honduras. Il y avait 2 épaves qui étaient très belles, très bien conservées. En Indonésie, il y a énormément de courants. On a des courants qui nous tirent aussi vers le fond, des plongées qui peuvent être assez dangereuses. Quelques frayeurs, quelques fois. Jamais d'accident, plutôt fière de ça. Elles sont toujours bien passées. Donc après le Covid, je suis rentrée en France. Donc grosse remise en question de savoir ce que j'allais faire de mon parcours. Et puis, comme je le disais, pendant ces voyages-là, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens. Donc j'ai rencontré des gens qui étaient profs de plongée sur des bateaux, par exemple. Puis je connaissais ces bateaux du Ponant qui m'attiraient, que je trouvais magnifiques, et où il y avait des profs de plongée à bord. Donc je m'étais un peu renseignée. Puis travailler sur un bateau, c'est pas anodin. Il faut quand même passer des diplômes. On peut pas travailler comme ça. Donc il y a des certificats de base de sécurité à passer, par exemple. Donc tout ça, ça a un coût évidemment, donc je me posais des questions, est-ce que je voulais plonger toute ma vie et me reconvertir pourquoi pas, donc je savais pas trop. Donc les gens, pas mal de gens qui travaillaient sur des yachts que j'avais rencontrés. Et du coup, ils me disaient qu'un cadre de vie qui était vraiment génial, où on gagnait quand même pas mal d'argent, et puis ça nous permettait de continuer à voyager tout en travaillant. Sauf qu'au début, le problème que j'avais eu, c'était d'arriver à comprendre comment ça fonctionnait, parce qu'on n'est pas du milieu, comprendre qu'est-ce que c'est un capitaine de sang, un yacht master, voilà, c'est toujours compliqué de se renseigner. Donc j'ai mené les recherches sur Internet, j'ai appelé... Et donc Yachtmaster, c'est le côté plus anglo-saxon, où on peut faire plus de voiles aussi. Sinon, après, il y avait la fameuse école de l'Hydro, hein, qui est le NSM maintenant, et aussi la voie un peu plus longue de passer par la voie professionnelle, entre guillemets, où on fait un capitaine 200, un capitaine 500, et on gravit les échelons comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon choix, je suis partie à l'ENSM.
Il y a un concours d'entrée.
Alors, il y a le concours d'entrée pour les polyvalents. Alors, à l'Hydro, on a soit les polyvalents qui font donc la machine et le pont, et on a également la monovalence, soit le pont, soit la machine. Donc, l'Hydro, il y a 4 pôles différents. On a Marseille, Le Havre, Nantes et Saint-Malo. Donc, à Marseille, c'est les polyvalents, ceux qui font en 5 ans, ils font machine et pont. Ils finissent capitaine illimité. Après ces 5 ans. Et ensuite, on a les monovalents machines qui sont à Saint-Malo, qui, eux, n'auront pas l'illimité à terme. Et nous, en monovalent pont, on n'aura pas l'illimité à terme. On finit capitaine 3000. On est obligé de revenir à l'école pour faire notre année délimitée. C'est que quelques mois, mais il faut y retourner. Et du coup, moi, j'ai choisi la monovalence puisque je n'avais pas envie de repartir sur 5 ans d'études après avoir déjà fait un master et tout ça. Mais bon, au final, c'était pas loin, donc j'ai demandé la première année, mais c'était trop tard, en fait, quand je suis rentrée pour m'inscrire. Donc j'ai fait une prépa, c'était une année préparatoire, quoi, qui n'existe plus maintenant. Moi, j'ai fait la dernière année, et c'était une remise à niveau, on va dire, de maths. Bon, il y avait aussi du français, il y avait aussi de la physique, tout ça. Donc c'était bien parce que moi qui n'avais pas fait un bac scientifique, plus qui avait arrêté les études il y a 4 ans avant ça, quelque chose comme ça, donc il a fallu se remettre dedans, donc c'était bien. Puis ça m'a permis de mettre un pied dans l'école, donc c'était plutôt pas mal. Très instructif, puis j'ai rencontré les professeurs et puis mes futurs collègues au final, puisqu'on est 6 de ma promo à avoir été pris, je crois. Et donc on a intégré après la première année, suite à cette année. On est parti pour 3 ans. Alors ça a évolué au fur et à mesure qu'on était là. Donc au final, j'ai fini par faire 2 ans et demi au Havre et on a eu un semestre embarqué au cours de notre deuxième année. Donc on pouvait partir un peu plus longtemps en mer et sinon on peut aussi embarquer les étés. Donc j'ai pu embarquer mon premier embarquement c'était à la Brittany Ferries dans le nord. Je faisais Roscoff Plymouth. Et une fois par semaine, on allait en Irlande. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un mois. Et ensuite, je suis partie chez Ponant sur un navire qui s'appelle le Soleal.
Ponant, c'est des bateaux de croisière.
Bateaux de croisière, exactement. Alors j'étais trop contente parce que pour moi, ces bateaux, je les voyais depuis le début. Je pensais que ça allait me plaire. Au final, ça ne m'a pas forcément plu. C'était pas forcément mon univers, mais au moins, je l'ai fait. Donc j'étais contente. Je ne suis pas retournée depuis. Mais oui, bonne expérience. Donc, on était en Australie, on faisait une croisière entre Darwin et Broome. C'était sympathique, malgré tout, une bonne expérience. Et ensuite, je suis partie au porte-conteneurs, à la CMACGM, un embarquement que j'ai adoré. Ça a duré 3 mois et 1 semaine. Et on a fait la ligne, les FAL, les French Asia Line, entre Le Havre et la Chine. Donc on fait 1 mois et demi aller et 1 mois et demi retour. Donc c'était...
Par Suez ou par le Sud?
Ouais, par Suez. Moi à ce moment-là, ouais, c'était par Suez. Donc je fais aller-retour par Suez. C'est vrai que maintenant il passe par le Cap de Bonne-Espérance. On a fait la Corée aussi. On est passé par la Corée du Sud. Et donc la Chine, Suez, Détroit de Malacca. Et après, retour par le Havre, au Havre, et j'ai débarqué. Et voilà, c'était une très bonne expérience, très intéressant. Des embarquements où les lieutenants, tout le monde est tout le temps à fond, quoi, parce que bon, sur les bateaux, mon bateau, il faisait 400 mètres. C'est les nouveaux.
C'est les nouveaux.
Oui, c'était le Jacques Saadé. Ouais. Donc 400 mètres qui étaient propulsés au GNL, là. Et donc, par exemple, en Chine, on a jusqu'à 10 grues qui travaillent sur le bateau, quoi. Donc c'est énorme. Tout en même temps, donc c'est du boulot. Et ça, en plus des quarts, en plus du ballastage du navire pour maintenir la stabilité, c'était du boulot et c'était une très bonne école. Donc, je suis très contente d'avoir fait la CMA. Et puis ensuite, je suis retournée à l'école. J'ai fini mes temps d'école. Et donc là, il me restait 6 mois de temps d'élève en fait, à valider à bord pour avoir mon brevet. Donc là, je suis chez Orange Marine, c'est les navires câbliers qui posent et réparent la fibre optique, donc les câbles qui ont été posés entre les pays, on va dire, pour la communication. Et donc, ils ont 4 bateaux français. Donc, ils en ont un qui est à la Seine-sur-Mer à côté de Marseille, un qui est à Brest, un autre qui est en Afrique du Sud, le Thévenin, et un autre qui est au Japon, qui s'appelle le Descartes, René Descartes. On est envoyé en mission lorsqu'il y a des réparations à faire. Ça peut être dû, par exemple, là, moi j'étais sur le Thévenin, Lyon-Thévenin. On a eu, à la suite du cyclone à La Réunion, la grosse tempête, il y a eu une avarie sur le câble, donc il a fallu le récupérer. Donc c'est des procédés qui sont hyper étonnants de nos jours encore, quoi, parce que... On va mettre un grappin à l'eau pour, par 4000 mètres de fond, on va envoyer un grappin à l'eau pour sectionner le câble. Donc, c'est des opérations qui vont durer peut-être 18 heures, en fait, juste pour couper un câble, puis le remonter à bord. Voilà, c'est très long. Plus c'est profond et plus c'est long. Puis ensuite, ils vont venir faire des joints entre les câbles, les portions qu'ils auront changées, et venir faire les joints en fait, de fibre optique. Enfin, c'est très minutieux et vraiment intéressant à voir.
On travaille avec des ROV.
Alors, on a un ROV à bord. Moi, je ne l'ai pas vu utilisé encore parce que mon premier embarquement sur le pierre de Fermat, je n'ai pas été en mission. Donc, on est resté à quai en stand-by, en fait. Donc, les bateaux restent en stand-by le temps qu'il y ait une mission, en fait. Là, on a un ROV sur chaque bateau, si je ne dis pas de bêtises. Et là, sur le Thévenin, on a une première mission par petit fond. Donc, trop peu profond pour utiliser un ROV. C'était un short end, en fait. On vient connecter le câble à la terre, tout simplement, aux stations terrestres. Et sinon, là, par 4000 mètres de fond, c'est trop profond. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait la bonne profondeur pour qu'ils utilisent le ROV. Mais c'est très intéressant aussi, hein, on voit le ROV, donc c'est comme des chenilles, un peu comme les tanks de l'armée, là. Et ils vont faire, ils ont des outils, des pinces, des couteaux, des ciseaux, pour être grossier. Et puis, ils ont aussi des jettings, qu'ils appellent, c'est de la haute pression, en fait, pour creuser et ensouiller le câble sous l'eau.
Ces navires-là, ça fait que de la réparation, ça fait pas de la pose de câble neuf.
Ouais, si, également. Alors, tous les bateaux ne peuvent pas... Enfin, ils peuvent tous faire de la pose, juste on ne les équipe pas de la même façon, s'ils partent en pose ou s'ils partent en réparation. Voilà, après, c'est le nombre d'équipages qui va changer, parce que s'il y a de la pose ou de la réparation, les besoins ne sont pas les mêmes. Et également, le matériel qui est utilisé à bord sera différent. Donc on arme le bateau de manière différente en fonction des opérations.
Et là, tu vas continuer sur chez Orange ?
Oui. Alors là, j'ai fait 2 navires déjà. Là, je repars sur le Pierre de Fermat. Par lundi à Las Palmas aux Canaries. Ils ont terminé une mission il n'y a pas longtemps. Et du coup, on va ramener le navire à Brest. Donc, et puis après, on sera en stand-by à Brest en attendant la prochaine mission. Et je continue avec cette compagnie. Là, je finirai mes temps d'élève sur le Pierre de Fermat en juillet. J'aurai terminé. Et ensuite, je vais pouvoir être lieutenant. Et ils m'ont proposé déjà 2 contrats septembre, décembre et janvier. Donc, j'étais très contente de pouvoir rester dans cette compagnie que j'aime beaucoup. C'est très formateur, très intéressant.
Il y a du boulot dans la marine marchande, il n'y a pas de chômage.
Pour l'instant, on ne va pas se plaindre pour l'instant. Après, c'est assez cyclique. Il y a des moments qu'on m'a raconté qu'il y a quelques années de ça, c'était pas simple de trouver. Par exemple, certaines compagnies, elles étaient full, et ils ne pouvaient plus prendre personne. Il y a certaines personnes qui sortaient de l'école et qui se retrouvaient au chômage, malgré leur temps d'élèves terminé au sein d'une compagnie. Là, ils ont ouvert, ils ont augmenté quand même le nombre de personnes à l'école, à la demande des armateurs, hein, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui continuent la marine marchande toute leur vie. Il y a qu'un faible pourcentage de personnes qui restent dans la marine marchande et qui veulent continuer à aller à bord, quoi, qui se reconvertissent ensuite par le futur. Quand tu pars en mer autant de temps et tu manques beaucoup d'événements, donc c'est 6 mois de l'année en mer et 6 mois à terre, donc il faut que ça tombe bien. Puis généralement, on peut t'appeler du jour au lendemain parce que quelqu'un s'est fait mal et qu'il faut le remplacer. Et puis ensuite, à bord, c'est quand même un métier qui est assez difficile malgré tout. Il y a un gros taux d'accidents, même si c'est souvent à la pêche plus que sur les navires marchands proprement dit. Mais oui, c'est un métier qui est fatigant avec des horaires assez compliqués parce que quand tu es de quart, ton quart, c'est par exemple 4h à 8h ou 16h à 20h. Donc un quart la journée, un quart la nuit. Et entre-temps, il faut aussi que tu fasses ton service. Donc c'est quand même des horaires qui sont assez conséquents. C'est stressant aussi parce que c'est des responsabilités. Alors en tant que lieutenant, moins que celui qui est second capitaine ou commandant ou chef méca, bien sûr, mais ça reste quand même un métier à responsabilité et qu'il faut bien faire, qui peut avoir de lourdes conséquences malgré tout.
Quand tu dis 6 mois de congé, 6 mois embarqués, ça, c'est la réglementation française.
Ouais. Ah oui, parce que sinon, les autres nationalités, c'est sûr que c'est différent.
Les Philippins, c'est pas la même histoire.
Ah non, c'est pas la même histoire. Ils restent jusqu'à 9 mois à bord. Oui, bien sûr. On a de la chance, nous, de faire moitié-moitié. On fait du 2 mois, 2 mois, ou 3 semaines, 3 semaines.
Est-ce que tu peux détailler les différents postes de travail à bord de ton navire câblier ?
Alors, officier monovalent pont, c'est beaucoup de quarts. Dans le maritime, faut bien conduire le bateau, l'amener à bon port. Du coup, évidemment, on a tous l'image du commandant qui est chef de l'expédition maritime. Mais sur les gros navires, il ne fait pas tout seul. Donc, on va diviser son travail avec plusieurs personnes. Donc, on a pour le pont, on a 3 lieutenants en pont. Qui vont se diviser sur 24 heures, donc 3 quarts. Donc on va avoir le minuit à 4, le 4 à 8 et le 8 à 12 du coup. Donc un quart de 4 heures en journée et un quart de 4 heures la nuit. Et en plus de ça, le lieutenant pont, il va s'occuper de son service. Il va faire tout ce qui est sécurité du navire, s'occuper de tout ce qui est incendie et avarie, s'occuper des instincteurs, de tout ce qui est extinction fixe incendie, par exemple. Donc ça, c'est la partie sécurité. On aura la partie navigation, l'officier qui va s'occuper de tracer les routes en fonction des endroits où on va aller, que ce soit sur carte papier ou sur ECDIS, qui est comme une carte liée au GPS, en fait. Il s'occupe de tous les équipements dans la passerelle. Voilà, qu'il est responsable de toute la passerelle. Et ensuite, on va avoir un lieutenant, souvent, qui est admin ou sup, qui va s'occuper de tous les papiers d'escale. Donc, c'est quand même pas mal de boulot, comme je le disais. Et ensuite, on a aussi le second capitaine, qui, lui, va s'occuper de gérer les matelots et tout ce qui se passe sur le pont. Donc, sur un navire câblier, par exemple, on va avoir énormément de travaux sur le pont. Donc, comme pendant nos opérations, on va envoyer des filins à l'eau, des grappins. On peut envoyer une charrue pour ensouiller ou désensouiller un câble. Donc ça, c'est les équipes pont sur le pont. Donc matelots et Bosco qui vont s'occuper de tout ça. Ensuite, lorsqu'on est en opération, les lieutenants, ils sont aussi au DP. C'est le positionnement dynamique du navire. Donc on va garder le bateau en position, en fonction des éléments. Donc il faut vraiment prendre en considération le vent, le courant et la position qu'on veut garder, suivant le courant et en fonction d'où on va poser le câble ou le réparer. Donc il faut vraiment prendre en considération tous ces éléments pour rester à une position qui est exacte. On ne peut pas bouger, surtout par petit fond, on ne peut pas se permettre de bouger le navire d'un centimètre. Donc ça, c'est des cartes d'épée qui sont durant les opérations. Et puis évidemment, après, on a le commandant qui est les yeux, les oreilles et représentant de la compagnie et qui va gérer le navire et qu'on peut appeler à n'importe quel moment en cas de doute. Et voilà, qui est responsable de gérer les équipes et toute l'expédition maritime. Donc voilà. C'est vrai que je suis une femme et que les femmes dans la marine marchande, on a souvent... On pose souvent la question, c'est pas trop difficile d'être entourée d'hommes. Donc non, ça l'est pas. Évidemment, il y a un certain comportement à avoir, mais comme dans tous les métiers, hein, on reste professionnel. Mais sinon, c'est très positif. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été bien entourée. Au contraire, quand on est une femme, vu que c'est un métier quand même qui peut être physique souvent, où on fait beaucoup de bricolage, c'est très bienveillant, on nous apporte beaucoup d'aide. Et comme on le dit, je pense que si on est motivé et lorsqu'on montre qu'on a envie de faire ce qu'il faut faire, on va nous aider. Et je pense que la touche féminine, ça apporte aussi quelque chose... dans le milieu d'hommes, qui sont entre eux et l'ambiance, exactement, à l'ambiance. Donc non, c'est positif. On a ouvert, donc l'école a ouvert les portes au féminin et c'est une bonne chose qu'on soit tous dans la même dynamique, que ce soit masculin ou féminin et qu'il n'y ait pas de problème de sexe ou de genre dans cet environnement. Donc c'est une bonne chose. Dans ma promo, on était 34 ou 35 et il y avait un tiers de filles. Donc c'était déjà beaucoup pour l'école parce qu'en général, il y a quand même beaucoup moins de femmes. En tout cas, dans les années précédentes, il y avait énormément moins de femmes. Maintenant, ça tend à se démocratiser et on ouvre de plus en plus, on communique sur le féminin et donc c'est une bonne chose. De plus en plus de femmes dans la marine marchande.
Voilà, il y a tout de moi. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière. Ok.
À la plage arrière de l'homme.
Ouais, Sergio, super, c'est ça?
Onde marine, portrait de Jean de Mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons.